France Inter, Frédéric Mettezo, le 6-9.
Bonjour Mounir Majoubi.
Bonjour.
Secrétaire d'État au numérique, invité du grand entretien de France Inter, les auditeurs pourront vous poser vos questions directement au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr. Mounir Majoubi, c'était le sixième week-end de mobilisation des Gilets jaunes. On a entendu les reportages dans les journaux de France Inter sur ces gilets jaunes qui fraternisent, sur ces ronds-points, ils vont fêter Noël. Mais ce week-end, ce sont aussi ces quenelles devant le Sacré-Cœur, ces policiers pris d'assaut avec leurs motos à terre. Mounir Majoubi, comment caractérisez-vous le gouvernement après ce sixième week-end de mobilisation ?
Avec une évidence essentielle qui est de rappeler cette nécessité d'ordre. C'est-à-dire que dans ce mouvement des gilets jaunes, il s'est passé différents moments. Il y a eu cette première fois où on a vu sur des plateaux télé des mères célibataires qui expliquent comment c'est impossible pour elles de finir les fins de mois. Comment, même avec 1 200 euros, quand on a deux enfants et que donc on dépasse les minima, qu'on est moins aidé, eh bien c'est très dur de vivre ces mois. Ces voix-là, elles ont été nouvelles. On les avait pas entendues depuis très longtemps dans les médias. Et moi, j'étais assez heureux, je dois vous le dire, de les entendre. Et je pense que ça nous a tous collectivement aidés. Ça a été le message du président de la République. Et plus jamais la politique ne sera comme avant. Parce que maintenant, tous les Français se sont dit, nous avons la capacité d'être entendus. Et puis, il y a les autres. Et puis, il y a ceux qui ont essayé de casser Paris 5 fois, 5 week-ends d'affilée. Et il y a ceux qui ont essayé d'annoncer, de dire très fort au monde. Les images étaient ignobles hier matin. J'ai regardé en direct les vidéos du haut de Montmartre jusqu'au déferlement dans les rues. Il y avait ces cris de rugby, ces cris animaux, pour faire peur. Et ces gens qui dévalaient. Il y a eu ces chants de quenelle. Vous savez ce qu'il y a de plus ignoble dans le chant de quenelle de Dieudonné ? C'est le sourire qui va avec. Il faut les voir ces mecs-là. Ils étaient une quarantaine. Ils sont heureux. Heureux de vomir sur l'histoire, heureux de vomir sur les Français, heureux de trahir notre histoire et heureux, vraiment heureux, d'haïr les Juifs. Heureux de dire très fort, profondément, qu'ils sont des antisémites heureux.
Et bien ou de s'en prendre aux policiers, comme on l'a vu sur ces grandes avenues parisiennes.
Et la journée a continué, c'est-à-dire qu'ils sont allés de rue en rue, faisant peur aux passants, aux commerçants, se dégroupant, se regroupant. Et puis, à l'intérieur, quelques sincères, à l'intérieur, quelques-uns qui étaient venus. Mais tellement, tellement qui étaient venus pour faire du bruit et tellement pour faire peur.
Ces policiers qu'Édouard Philippe va rencontrer à 11h tout à l'heure dans leur commissariat, dans leur casernement. Emmanuel Macron, qui est au Tchad, appelle au rétablissement de l'ordre. Ça veut dire que depuis 6 semaines, le gouvernement n'arrive pas à garantir l'ordre.
Vous savez,
c'est un aveu de faiblesse tout de même.
Le gouvernement a empêché qu'il y ait des morts dans ces manifestations. Le gouvernement a empêché qu'il y ait des blessés graves dans ces manifestations.
Même il y a eu 10 morts au rond-point tout de même.
Il faut reconnaître qu'il y a eu des blessés du côté des manifestants et des blessés du côté des forces de l'ordre. Mais là, vous parlez d'autre chose qui est très important. Ces manifestations à travers la France, ces blocages de rond-points à travers la France, ils sont extrêmement dangereux. Ils sont extrêmement dangereux, il y a eu 10 morts, et la raison pour laquelle c'est interdit de circuler sur une route à pied, de bloquer une route à pied, eh bien c'est assez simple à dire, c'est parce que c'est dangereux. Donc il faut qu'on trouve une issue à ce mouvement, on ne pourra pas continuer plus longtemps à avoir des commerçants qui ont peur, des citoyens qui ont peur, des citoyens qui parfois utilisent le terme milice quand on leur contrôle leur véhicule. C'est vrai que c'est un peu surprenant quand quelqu'un qui n'est pas la police vous arrête, vous demande pas vos papiers, mais vous demande quand même si vous soutenez la cause. Et si vous ne la soutenez pas, vous ne passez pas. Moi, je commence à avoir du mal à différencier ce message positif de ceux qui n'avaient pas entendu et qui disent « écoutez-nous », de ce message qui s'impose à tous, de ce message de violence qui s'impose à chacun.
Et dans ce contexte de mélange entre, on va dire, les gilets jaunes sincères et puis ceux qui mettent le gilet jaune pour casser ou faire du mal, est-ce que vous n'avez pas peur que le grand débat national ou que des référendums d'initiative citoyenne soient pris en otage par des extrémistes ?
La vertu d'un grand débat national, c'est que les gens vont parler et qu'on va parler ensemble et qu'on va s'écouter. On ne pourra pas juste crier, on ne pourra pas juste bloquer, on ne pourra pas juste manifester. On devra dire tout ce qu'on a sur le cœur, avec ce qui est agréable à entendre et ce qui n'est pas agréable à entendre. C'est le moment où on va pouvoir tout se dire sur plusieurs grands sujets. Et puis ça va être le moment pour le gouvernement de répondre ensuite et de dire voilà ce qu'on va faire.
Sans risque de débordement, sans risque de voir un jour un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, qui proposerait par exemple d'abroger le mariage pour tous.
C'est bien évidemment un des plus grands dangers, ces référendums permanents, ces référendums où on pourrait remettre à plat tous les acquis sociaux. C'est pour ça que aujourd'hui, la discussion sur la démocratie, comment on fait de la France une démocratie plus participative. Aujourd'hui, ce message, il a été entendu et je crois que nous sommes nombreux à le soutenir. Moi, j'ai toujours soutenu une France plus participative. Mais il n'y a pas que le RIC. Il y a le référendum d'initiative partagée. Il y a le référendum d'initiative populaire. Il y a la création d'un agenda où on ouvrirait un référendum régulièrement. Il y a de très nombreux modèles qui existent dans le monde, dans des démocraties très matures. À nous de débattre ensemble, là, partout en France, pour voir quel est celui qui ressemble le plus à la France.
Il n'y a pas que le RIC, il y a aussi le numérique. C'est votre portefeuille, Mounir Majoubi. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement de terrain et c'est un mouvement numérique qui est né sur Facebook, qui a grandi sur Facebook. C'est la première révolte.com.
C'est
en France, en
l'illustration,
tout cas,
l'incarnation de ce nouveau moment, ce nouveau pouvoir. Il y a une nouvelle façon d'exprimer son pouvoir, il y a une nouvelle façon d'exprimer sa vision du monde, et il y a des nouvelles façons de se mobiliser, de se grouper, de la faire entendre aux autres. Vous avez raison, c'est la première fois en France qu'on a des groupes avec 200 000, 300 000 personnes qui se réunissent tous les jours, qui partagent des milliers de contenus, qui ont, alors ce ne sont pas des leaders, mais qui sont des créateurs de messages, qui sont des personnes qui font ces lives tous les soirs, et on connaît leurs noms, Monsieur Drouet, Monsieur Flyrider, Monsieur Nicole, on les entend tous, on les voit tous. Et c'est nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire un appel à manifester avec beaucoup de fautes d'orthographe et on va avoir un million de... Et est-ce que c'est grave ? Non, moi je trouve ça très bien.
Oui, mais alors parlons-en.
C'est formidable d'avoir donné à chacun la possibilité de se mobiliser.
Le revers de la médaille, c'est ce monsieur Maxime Nicole, Flyrider, que vous avez contacté via Facebook. Vous avez demandé à dialoguer avec lui. C'est tout de même une personnalité complotiste, grosse pourvoyeuse de fausses nouvelles. Il vous a répondu ?
Tout à fait, et on échange. Et aujourd'hui,
Que vous lui dites ? Il dit par exemple que l'attentat de Strasbourg est peut-être pas tombé tout à fait par hasard la veille d'un week-end de mobilisation.
Il l'a dit, mais il s'est repris l'heure suivante et le lendemain, il en a fait toute une vidéo dans laquelle il faut le chercher, mais dans laquelle il y a un mea culpa.
Et vous savez très bien, Mounir Majoubi, que les démentis sont toujours moins forts que les premières affirmations.
Bien évidemment. Et ce que je reproche, mais je veux pas qu'on parle que de monsieur Nicole.
Non, mais parlons de la diffusion massive des fausses nouvelles.
La diffusion massive des infos intox. Aujourd'hui, on a un vrai sujet autour du vrai. On a un vrai sujet autour du complot. Le complot, c'est délicieux, ça sonne bien, ça ressemble plus à la vérité que la vérité. La vérité, c'est terrible. C'est simple, mais c'est pas parce que c'est simple que c'est faux. C'est simple dans le sens où, eh bien oui, ce sont des hommes et des femmes qui sont responsables des plus grands drames de notre histoire. Ce n'est pas une société secrète. Oui, aujourd'hui, les inégalités, elles sont nées de toute notre histoire et il faut se battre contre elles. Mais il n'y a malheureusement pas un complot de 200 familles qui se réunit chaque année pour décider de ces inégalités. Et ce qui est dangereux avec le complotisme, c'est que ça empêche la mobilisation sincère. Si on croit qu'il suffit de trouver les coupables pour les tuer, alors on ne se mobilise pas au bon endroit. Parce que les coupables, eh bien, ils n'existent pas. Les coupables, c'est nous tous. Mmh. C'est-à-dire que c'est un système qu'il faut transformer et pour lequel il faut se mobiliser.
C'est parce qu'on accepte d'y croire.
On accepte d'y croire parce que c'est plus simple. Et moi, mon travail, à chaque fois que je discute avec ces personnes, à chaque fois que je vais sur ces forums, c'est de venir dans le détail, répondre à chaque question. Et vous savez, la plupart des gens qui y croient, quand on prend un peu de temps ensemble, qu'on échange un peu ensemble, ils vont pas tout de suite vous dire « bon, vous m'avez convaincu, ça n'existe pas ». Mais c'est comme cette journée aujourd'hui, vous savez, nous sommes le 24 décembre, il y a des choses auxquelles on ne croit plus vraiment, mais qu'on accepte de signifier, qu'on accepte de montrer, de... Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait cette parole sincère de je comprends que vous y croyez très fort, mais je voudrais vous dire pourquoi ce monde n'existe pas.
La Défense nationale a ouvert une enquête sur d'éventuelles ingérences étrangères. En gros, des États auraient ouvert de faux comptes Facebook, de faux comptes Twitter pour propager massivement des fausses nouvelles. Où en est l'enquête ? Vous pouvez nous en dire ce matin, 24 décembre, sur France Inter, où on en est de cette enquête ?
Je ne vais pas vous dire où en est l'enquête, mais je vais vous dire quels sont les éléments qui étaient importants pour nous à regarder.
Ça veut dire qu'il y a des présomptions ?
Le mouvement, il est né pour de vrai. Il est né par des Français qui ont diffusé des messages en France. Par contre, il y a eu des phénomènes d'écho. C'est-à-dire que notamment sur les tweets en anglais, il y a eu des comptes nouveaux qui ont été créés, qui ont massivement diffusé des pratiques qu'on a souvent vues avec des forces parfois étrangères, mais aussi des groupuscules qui ne sont pas forcément des nations, qui investissent massivement dans les réseaux sociaux pour diffuser fort ces messages. Ça est inacceptable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le gouvernement demande aux plateformes une plus grande transparence pour comprendre qui paye quoi. Est-ce que oui ou non, il y a eu des investissements qui ont été faits? Est-ce que oui ou non, vous avez détecté une activité anormale venant de l'étranger sur telle et telle activité? On l'a connu pendant les élections américaines, on l'a connu pendant les élections françaises, d'autres pays l'ont connu après nous. Nous sommes sortis de la phase de naïveté. Mais si on doit se dire une chose, aujourd'hui, ce mouvement des Gilets jaunes, il n'est pas une manipulation de l'étranger. Ce mouvement aujourd'hui, il est un mouvement français dans lequel il faut essayer de comprendre quelles sont les forces mobilisatrices. Et il faut essayer de les comprendre finement. On a parlé tout à l'heure des extrêmes. Il faut vraiment regarder aujourd'hui les groupuscules d'extrême droite qui sont massivement présents dans ces rassemblements, massivement présents en ligne. Et ces groupes d'extrême droite en ligne ont cette particularité d'être particulièrement interconnectés entre eux à travers le monde. Ils diffusent les mêmes fake news en même temps. Ils diffusent les mêmes faux messages en même temps. Ils se soutiennent les uns les autres en même temps. Vous avez raison de parler du pacte de Marrakech. Donc il existe une galaxie de groupes qui se connaissent bien, qui travaillent souvent ensemble. Et donc, ceux-là, il faut les regarder fort.
Pour bien comprendre, Mounir Majoubi, vous nous dites que toutes ces fausses nouvelles ne sont pas venues de l'étranger, qu'elles viennent de chez nous, de France, mais qu'en revanche, des comptes à l'étranger vont les répercuter, les amplifier, les répéter à l'infini. C'est
ça ? Tout à fait. C'est un phénomène que ça s'appelle l'astroturfing, qui consiste à créer une caisse de résonance accélérée. Alors, avec parfois comme objectif de déstabiliser le pays par l'intérieur, pour que ça touche les Français, mais parfois avec un autre objectif d'astroturfing qui est de donner une fausse perception de la France à l'étranger. Et là, la cible, ce ne sont pas les citoyens français, ce sont les médias étrangers. Et aujourd'hui, on peut dire qu'aux États-Unis, on peut dire qu'en Russie, on peut dire que dans plusieurs pays, il y a un décalage entre la réalité, la perception qu'ils ont et la réalité de la situation aujourd'hui en France, parce que ce qui leur arrive jusqu'à eux, par les médias qui sont dans leur langue, par les comptes qui sont dans leur langue, est une version exagérée, une version paniquée de la réalité du mouvement.
Il y a un paradoxe sur ce mouvement des Gilets jaunes. C'est un mouvement qui rejette l'idée de Startup Nation, y voit les start-upers, qui est votre univers professionnel à l'origine, comme des gens, des Parisiens, des bobos, des intellos, très déconnectés de leurs préoccupations. Et en même temps, ce mouvement, c'est un mouvement numérique. Il y a vraiment ce paradoxe du mouvement anti-start-up et finalement qui n'aurait pas pu vivre sans tous ces réseaux.
Je n'ai jamais entendu de personne avec un gilet jaune hurler contre les start-up. Ils l'ont souvent fait contre le président de la République, contre le gouvernement. Je n'oppose pas la France qui innove, la France des start-up et la France qui innove dans les territoires.
La France connectée n'est pas pour eux une France déconnectée des territoires ? Plus à l'aise à New York ou à Tel Aviv ou à Londres ou à Berlin qu'à Guéret ou à Tulle.
Je vous assure que la majorité de nos start-upers en France sont des gens qui viennent de partout en France, qui ont une vie de français.
Oui, j'en doute pas, mais la vision des gilets jaunes, de certains gilets jaunes sur cette France qui gagne. C'est ce qu'on vous a reproché à vous, à Emmanuel Macron, d'être la France qui gagne, la France de l'innovation technologique qui oublie un petit peu la vie quotidienne des Français.
Le message que nous portons avec Emmanuel Macron, avec Édouard Philippe, depuis le début de ce gouvernement, c'est de faire un numérique au service des humains. Un numérique dont l'objet est d'être accessible à tous. Aujourd'hui, on a 20% de Français qui ne savent pas utiliser le numérique. On les regarde pas de loin, on a mobilisé autour de nous, on a mobilisé des personnes pour qu'elles soient capables d'être accompagnées. Nous, notre objectif, c'est que les Français ils sachent utiliser le numérique. Notre objectif, c'est que le très haut débit soit accessible dans tous les villages de France. Nous, notre objectif, c'est que chaque Français trouve quelque chose dans le numérique qui peut changer sa vie. Évidemment que le but, c'est pas de faire des startups de milliardaires qui vont faire... Ce n'est pas le
modèle
français.
Mais au moins, c'est d'avoir le haut débit, par exemple.
C'est pas au moins, c'est la priorité absolue. La priorité, c'est avoir le très haut débit et la formation. Il y a 20% de Français qui ne savent pas. Donc eux, il faut qu'ils aient la connexion et il faut qu'ils aient l'accompagnement. Et puis, il faut qu'on ait des champions. Il faut qu'on ait des startups à travers le monde qui viennent de France et qui changent le monde autour de nous. C'est tout ça en même temps. Mais aujourd'hui, le message, on a fait la démonstration en 2018 que le numérique, c'était un espace pour tous, qu'on pouvait s'y mobiliser, qu'on pouvait échanger, qu'on pouvait, quel que soit son niveau d'études, échanger ensemble. c'est quand même assez nouveau. Et d'ailleurs, regardez la différence entre Twitter et Facebook. Twitter est très exigeant. Twitter, c'est un petit monde entre ce quelques millions de personnes qui sont un peu les spécialistes du langage. On n'a pas beaucoup de caractères, faut être ciblé. Mais regardez ce qui se passe sur Facebook.
Il y a des posts très longs.
Il y a 10 fois plus de français sur Facebook. On peut mal écrire, on peut écrire longuement, on peut écrire de façon courte, mais on peut tous s'écrire. Mais je trouve ça très beau, les messages qui ont été échangés. Je trouve ça très bien que des gens qui pensaient qu'ils n'avaient pas le droit de choisir, qu'ils n'avaient pas le droit de parler, mais ceux-là sont dit, on peut y aller. Moi, j'ai décidé, vous l'avez vu depuis plusieurs semaines, de consacrer énormément de temps à l'écoute de ce qui se dit partout autour de ces personnes qui ont voulu mettre le gilet jaune. J'y vais sur le terrain, je les rencontre sur les plateaux, je vais sur Internet dans leurs forums, j'y suis tous les soirs. Ce que j'y découvre me transforme. Ce que j'y entends me transforme. Mais ce que j'y vois parfois me mobilise pour changer. Quand j'entends ces complots, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller leur parler. Ce n'est pas de les mépriser, ce n'est pas de les regarder, ce n'est pas de les faire taire, c'est de leur dire, quand tu dis ça, quand tu racontes ça sur le pacte de Marrakech, moi j'aimerais qu'on passe 3 heures ensemble avec ce pacte de Marrakech entre les mains. Quand je vous entends dire que le gouvernement manipule Facebook avec Facebook et qu'on est, nous manipulons les algorithmes pour empêcher vos messages de circuler.
C'est tout le contraire.
Je veux vous faire la démonstration que c'est absolument tout le contraire. Et quand je les entends raconter des situations de personnes qui ne bouclent pas les fins de mois, là, je veux entendre et je veux profondément écouter parce que je veux que nous puissions nous transformer. Et c'est le message du président de la République.
Allez, il est 8h37. On va au standard de France Inter au 01 45 24 7000. Bonjour Claude.
Oui, bonjour monsieur.
Soyez le bienvenu.
Une question. Merci beaucoup. Juste ma question avec aussi une petite anecdote. Donc, je voudrais savoir ce que pense monsieur de ces sociétés. Alors je cite en vrac Uber, Airbnb, Amazon, etc. qui utilisent toutes les infrastructures du pays tout en essayant d'échapper à l'impôt, ce qu'ils arrivent à faire d'ailleurs. Et je voudrais donner un exemple très parlant. Il y a une société aux États-Unis qui s'appelle Sears et qui est en train de mettre la clé sous la porte. C'est une société qui a beaucoup de gens âgés qui ont des petites retraites et qui travaillent dans ces magasins. Et cette société met la clé sous la porte à cause d'Amazon. Et c'est en train d'arriver en France aussi. Sachez que lorsqu'Amazon crée un emploi, en France, il en détruit minimum 10. Et donc, j'aimerais bien savoir ce que nos hommes politiques vont faire.
Merci beaucoup, Claude. On va abréger parce qu'on vous entend très mal. C'est un téléphone portable, je pense, et on ne vous entend pas très bien, mais je vais reformuler rapidement votre question. Il y a deux questions, Mounir Majoubi, dans ce que nous disait Claude, qui nous appelait du 5e arrondissement de Paris. Beaucoup de sociétés étrangères type Google, Uber qui ne paient pas d'impôts. Et puis Amazon, on va peut-être commencer par là parce que ce sont les courses de Noël. Amazon qui fait concurrence au commerce de proximité, aux artisans, ou alors qui a un quasi-monopole de la vente en ligne. Comment faire pour qu'Amazon ne devienne pas le seul commerce dans les années à venir ?
Il y a un fait. Les Français commandent de plus en plus en ligne. Ils n'ont jamais autant commandé en ligne. Plusieurs dizaines de milliards d'euros de commandes ont été faites en cette fin d'année par les Français en ligne. Quand ils commandent en ligne, les Français ont plusieurs choix. Soit de commander à des e-commerçants français, soit de commander à des e-commerçants européens, soit de commander à travers des plateformes américaines qui vont vendre parfois des produits made in China. À chaque fois qu'on commande, on a de l'impact. C'est comme quand on va plutôt chez son boucher en bas de chez soi ou qu'on va acheter sa viande dans la grande surface. Il y a toujours la question du prix. Est-ce que je vais payer le moins cher ? Et puis il y a la question de l'impact. Est-ce que je veux maintenir ce commerce ici ? Eh bien, Amazon, la raison pour laquelle tous les Français commandent sur Amazon, les Américains commandent sur Amazon, c'est parce que Amazon fournit un service de très grande qualité. C'est très facile de commander, l'interface est très agréable, les gens trouvent absolument tout ce qu'ils y veulent, les prix y sont optimisés. Mais l'impact derrière, il est comment cet impact ? Et c'est là aujourd'hui où on a besoin d'une prise de conscience collective. Sur les impôts, vous avez entendu, nous serons très clairs, nous allons faire payer un impôt à tous ces acteurs du numérique dès l'année prochaine.
Ça rapportera 500 millions d'euros, c'est beaucoup et pas beaucoup, quand on voit ce qu'ils gagnent au niveau mondial, et voire au niveau français.
Mais pour le moment, et je vous assure que c'est beaucoup par rapport à leur chiffre d'affaires, ça représente ce 3% sur le chiffre d'affaires, ça représente à peu près, mais il va falloir qu'on le calcule maintenant que cet impôt va exister, ça ressemble à une imposition sur le taux de l'imposition sur les sociétés si elles faisaient des bénéfices réels en France.
C'est pareil que l'imposition, du boucher par exemple ?
Eh bien, la raison pour laquelle on fait une taxe sur le chiffre d'affaires, c'est un peu technique, c'est parce que si on les impose uniquement sur le bénéfice final en fin d'année, comme ces entreprises sont mondiales, le bénéfice réalisé en France
est
très
ailleurs.
Bas.
Voilà.
Donc, quand on a fait ces calculs et que la France a proposé cette taxe au niveau européen, on a proposé de taxer le chiffre d'affaires, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires, c'est tout ce que les Français et les Européens payent à ces plateformes.
Et avant déduction des coûts.
Avant déduction des coûts, qui sont des coûts qui sont déduits à l'étranger. Et bien là, avant de les déduire, on taxe. Et donc, ce 3% sur le chiffre d'affaires, ça, en chiffre, en pourcentage, à la fin, va être dans le même niveau qu'une imposition sur le bénéfice s'il existait. Mais ce sujet aujourd'hui, de comment on vit bien avec ces plateformes, il est essentiel. Pendant tout le mois de novembre et le mois de décembre, je suis à la rencontre de PME à travers la France qui rencontrent des difficultés avec ces grandes plateformes. Soit parce que elles ont essayé de travailler avec elles et qu'elles ont été virées du jour au lendemain sans aucun délai de prévenance. Elles ont perdu une partie de leur chiffre d'affaires. J'ai organisé une médiation. Je les ai tous fait venir à Bercy. Toutes les plateformes sont venues, toutes. Et ouais, tous ces PME sont venus, près d'une centaine.
Bon, et il en ressort une charte. Est-ce que cette charte va suffire? Une charte, c'est une déclaration de bonnes intentions.
Cette charte, c'est pour tout de suite. Cette charte, c'est pour le début d'année. Mais il faudra une loi. Et on s'est engagé, voilà, au niveau européen dans un règlement qui s'appelle Platform to Business, un règlement qui va créer des obligations pour que ces plateformes aient un comportement vertueux vis-à-vis des PME. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à avoir des PME qui ne profitent pas du déploiement du numérique et avoir des PME qui souffrent de ce déploiement. Mais il y a une autre question que posait l'auditeur qui est très importante,
oui,
c'est le futur de l'emploi. Comment on se dit dès aujourd'hui à quoi vont ressembler les emplois de demain ? Tous les chauffeurs à qui on n'arrête pas de répéter que tous les véhicules vont être autonomes, qu'est-ce qu'on a prévu pour eux? À tous ceux qui sont caissières ou caissiers et à qui on dit « demain tout cela sera remplacé des machines », qu'est-ce qu'on a prévu pour eux? Et là-dessus, c'est une responsabilité collective des grands employeurs, notamment nos plus grandes entreprises, de préparer aux transformations de l'emploi qui arrivent. C'est pas dans 10 ans. C'est dans 5 ans, c'est dans 3 ans pour certains. Ouais. Comment massivement on propose à chacun d'augmenter ses compétences, de changer ses compétences pour être prêt pour les emplois de demain?
On va retourner au standard. Bonjour Martine.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur France Inter, on vous écoute Martine.
Oui, je me demandais pourquoi La République En Marche, qui a été tellement performante sur les réseaux sociaux pendant la campagne électorale, l'a été si peu pendant l'affaire des Gilets jaunes. Ça a été en tout cas très peu relayé. Normalement, c'est des gens qui savent manipuler les réseaux, enfin utiliser les réseaux sociaux.
Oui.
Et on les a quand même pas beaucoup entendus.
Mais oui, Martine, d'autant que c'était Mounir Majoubi, le responsable de la campagne numérique d'En Marche. Alors Mounir Majoubi, vous avez perdu la vista ?
Mais c'est surtout, et il faut toujours rester humble sur les réseaux sociaux. Il faut rester humble sur Internet. Martine, vous nous dites, on est moins bon. Bon. On n'est plus en contexte de campagne, il n'y a plus autant de personnes mobilisées partout dans la société pour répondre. Mais c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, sur le discours des Gilets jaunes, il y a peu de Français qui ne sont pas Gilets jaunes, qui ont pris la parole sur les réseaux, soit pour dire qu'ils étaient d'accord, soit qu'ils n'étaient pas d'accord. Ça a été un discours entre des personnes très mobilisées d'un côté, des commentateurs de l'autre. Mais ça pose la question de la participation positive en ligne. Est-ce que, oui ou non, ceux qui ne sont pas d'accord se disent « tiens, j'ai moi aussi ma voix à faire entendre ». Eh bien, pas forcément. Il y a des dynamiques qui font que, quand d'autres s'expriment très fort à un moment, vous allez vous retirer un petit peu. La République En Marche a produit de nombreux documents, notamment des éléments pour lutter contre les infox, pour lutter contre
les fausses nouvelles,
oui, contre ces complots décrits, partagés massivement. Mais aujourd'hui, vous savez, tous ceux qui vous disent « je ferai mieux », malheureusement, on peut pas faire mieux. Il faut se mobiliser, y consacrer beaucoup de temps, être généreux. Mais aujourd'hui, il y a une parole qui s'exprime, elle est forte, il faut l'écouter. Et vous allez voir, c'est en écoutant que La République En Marche montrera qu'elle est ce mouvement qui a changé la politique pour longtemps.
Merci Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, d'avoir été l'invité de France Inter. Pardon à Yvon et Rémi que nous n'avons pas pu prendre en ligne. Je ne doute pas qu'ils auront écouté cet entretien avec intérêt. 8h, 9h moins le quart.